soit avec vous.
Évangile
de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous devons aussi ne pas nous cacher. Voilà, et bien nous fêtons Saint-Luc aujourd'hui. Je pense que personne n'ignore que Saint-Luc n'était pas un apôtre, c'est pas parti des 12 apôtres, mais c'est parti des 72 disciples. Et personne n'ignore non plus, je suppose, que c'est un des 4 évangélistes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le symbolisme des évangélistes, des 4 animaux. Et alors, il y a une grosse bagarre pour savoir si Saint-Luc, c'est un visage d'homme. Vous savez, les 4 animaux de l'Apocalypse. Et dans le butrin, on voit toujours les 4 animaux, l'aigle, le visage d'homme, le taureau. On ne sait pas d'ailleurs si c'est un taureau ou si c'est un bœuf. Et puis,
le lion.
Alors, souvent on dit, bon, ça dépend des églises, quelquefois on voit Saint-Luc avec le taureau. Et d'autres fois, on met Saint-Luc avec le visage de l'homme. Cet homme. On ne sait pas trop. Il y a cette espèce de bagarre. On connaît peu d'apparence, puisque dans les saints. Une chose est absolument certaine, c'est que pour Saint-Jean, c'est l'aigle. Tout le monde est d'accord. À chaque fois, les architectes ne se sont pas trompés. Ils ont bien mis l'ange pour Saint-Jean. Et ils ont bien mis le lion pour Saint-Marc. Ça, pas de problème. Mais entre Saint-Jean et Saint-Luc, il y a une permutation. Saint-Marc, c'est le lion.
Saint-Matthieu,
c'est Saint-Matthieu. Entre Saint-Matthieu et Saint-Luc. Saint-Luc, oui, tout à fait, autant pour moi. Ouais, pourquoi je dis Saint-Luc ?
Dans l'absence de la langue.
Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce symbolisme, ça ? Je préfère personnellement donner le visage d'homme à Saint-Luc.
Avec hier soir, nous étions 72. Quelqu'un a
oui. Décidé d'envoyer. Ah oui, tout à fait. Oui. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on choisit. Oui, Saint-Luc, c'était sans doute le positiviste de l'époque, c'était le savant de l'époque, il était médecin, il était très cultivé, il avait fait des études, c'était le diplômé, quoi. Et en même temps, il était de formation grecque, alors il était très curieux, très méticuleux, et il avançait pas à pas. Et c'est lui qui a fait toutes sortes d'enquêtes. Il a fait des enquêtes considérables avant d'écrire l'Évangile, il a voulu d'abord voir la Vierge, il a voulu voir tous ceux qui étaient là dès le départ, tous les survivants de l'incarnation, du moment, de l'époque de l'incarnation. Il le dit lui-même au début de son Évangile d'ailleurs, je n'ai rien voulu mettre, je n'ai vérifié moi-même auprès des témoins des origines. Et alors, de sorte qu'il y a quelque chose de très humain dans son évangile. Et alors, ce qui est curieux dans l'évangile de Saint-Luc, et ce qui est plus caractéristique, c'est que il fait partir Jésus dès le début de Galilée et ainsi. Et il le fait monter vers Jérusalem. Parce que dans les autres évangiles, on voit Jésus, qui est plus conforme à la vérité historique, évidemment, qui va à Jérusalem, qui revient, qui part en Syrie, qui part de l'autre côté du lac de Galilée. Mais pour Saint, dans l'évangile de Saint-Luc, Jésus fixa son front sur Jérusalem. Il part de Marie, il part de la première demeure, et il va vers la cité. Il commence par Nazareth, la demeure de Marie, la demeure de la Sainte Famille, et il va vers la cité de David. Il va vers Jérusalem. Il fixe son front vers Jérusalem parce qu'il va d'un seul élan vers la croix. Il va vers le Golgotha. Et il avance petit à petit vers Jérusalem. Et Saint Luc a cette expression. Jésus fixa son front vers Jérusalem. C'est la grande montée de Jésus. Ça, c'est l'évangile. Il va vers l'évangile de Saint-Luc, c'est que le chemin de croix commence à l'incarnation. Comme ça qu'on lit l'évangile de Saint-Luc. Alors c'est pour ça que selon qu'on regarde Saint-Luc, on dit visage d'homme, c'est vraiment la main. Il regarde vraiment le côté humain du Christ. L'incarnation, c'est l'humanité du Christ, le Rédempteur. C'est le visage d'homme. Ou alors c'est le chemin de croix qui commence, c'est pour ça qu'on met le taureau. C'est tout simple, c'est pour ça qu'on permute quelquefois. C'est ça. Et ça rejoint un petit peu donc l'évangile. L'évangile, oui, on commence par la maison et on va vers le village. Et c'est quand vous rentrez, vous êtes dans. Vous bénissez un village en partant d'une maison. Partez de la maison, la demeure de Dieu parmi les hommes, le tabernacle, l'arche sainte, c'est Marie, quoi. C'est le mystère de l'Immaculée Conception. Il faut d'abord rentrer dans cette maison, dans la demeure. Il faut que partout où vous allez, vous les disciples, vous commenciez à chercher la demeure de Dieu. Dans le lieu où vous êtes. Et la demeure de Dieu dans le lieu où vous êtes, c'est Marie. Et si vous vous trompez de demeure, c'est que c'était pas Marie, quoi. Ne prenez pas Saint-Antoine de Padoue, prenez pas. C'est très sympa, Saint-Antoine de Padoue, oui, très très bien, parce que vous pouvez prendre Saint-Antoine de Padoue parce que lui, justement, il est dans. Il est avec Marie. Il faut prendre Marie. Toujours commencer par Marie. Quand vous rentrez dans une maison, j'aime beaucoup cette parole, j'aime beaucoup. C'est vrai, quand vous rentrez dans une maison, restez-y. Et Jésus, et c'est frappant que Jésus, c'est ce qui dérange beaucoup les gnostiques, par exemple. Que Jésus, ça va être 30 ans à Nazareth. Et puis après, ils sont partis de Nazareth, cette maison, ils sont allés à Jérusalem, ils sont plantés à Jérusalem, 23. C'est tout. Ça les gêne. Alors ils inventent des tas de vides sur notre Seigneur Jésus-Christ qui était en Inde, qui était tout. Il diminue les trucs, c'est lui qui a l'origine de toutes les gnoses. Non, non, Jésus, une seule maison, cachée. Et puis il va faire la croix. C'est pas compliqué. C'est comme ça qu'on sauve le monde. C'est comme ça qu'on fait du bien. C'est comme ça qu'on sauve ses frères. Et qu'on sauve la multitude. Et en voulant trop en faire, du coup, on détruit tout. Et Jésus, au contraire, c'est comme ça. C'est curieux, ça. Vis-à-vis du prochain, la maison, c'est quoi? C'est le prochain qui est proche de moi. Le prochain qui est proche de moi, c'est le temple du Saint-Esprit. Une demeure. Une demeure de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand vous rentrez dans une maison, dites paix à cette maison. Celui qui est proche de moi, c'est une demeure de Dieu. Alors, il faut toujours être source d'unité intérieure pour celui qui est proche de moi. Si ma bénédiction, je ne vais pas évidemment le bassiner, mais c'est intérieur tout ça. Si j'habite dans le cœur de l'autre comme source de bénédiction, c'est bien. S'il me rejette, s'il ne souhaite pas la bénédiction de ma prière, il faut prier pour son prochain. Mais ça ne sert à rien, je prie pour lui, ça fait un prix pour lui quand même. Sa source de bénédiction pour ton prochain. Si il refuse la paix, cette paix retombera sur toi. C'est vrai, mais tout le temps, il faut bénir, jamais juger, toujours croire, toujours espérer. Ne jamais voir la haine qu'on voit apparemment, mais la croix qu'on oublie trop souvent. Les gens ne sont pas forcément dans la haine, hein. Ils sont crucifiés, c'est tout. Leur innocence est crucifiée. Et ils ont du mal à s'en sortir. Alors du coup, on dit, le croyant, le chrétien, regarde cette vérité. C'est que, au fond, au centre même, dans le foyer, dans la demeure de celui qui est proche de moi, la sainteté immaculée, l'innocence totale de Dieu est là. Et il faut rejoindre cette paix. C'est là qu'il faut demeurer et jamais s'arrêter aux apparences. Et jamais dans la haine. Jamais. C'est une erreur complètement folle de dire ça, mais il va être celui-là. Et non, il est crucifié. Notre innocence, à nous, on le voit bien pour nous. Notre innocence, il y a bien des moments où on voudrait, mais notre innocence, est, notre sainteté, si vous préférez, elle est bien là. Dieu est là au fond de nous. Mais il est prisonnier, il ne peut pas se manifester, qu'il soit une coque. Il faut arriver à rentrer dans cette demeure. Et une fois qu'on est rentré dans cette demeure, alors à ce moment-là, c'est possible pour nous, à travers la charité fraternelle, de vivre de l'Église de Jésus, de vivre de la Cité Sainte, d'aller à Jérusalem, de vivre d'irriguer la vie tout entière. Je ne peux pas irriguer la vie tout entière si je n'aime pas celui qui est proche de moi d'un amour de charité surnaturel, ardent. C'est impossible. Impossible. C'est vrai. Et c'est pas la peine d'aller aimer le type qui est en dark, là. Moi, je ne vais pas aimer ce qui est en dark. C'est bien assez mal à aimer Maurice, hein. Il faut m'investir tout entier. Et Jésus est resté avec Marie et Joseph, c'est vrai. C'était 30 ans maintenant. À ce moment-là, c'est là que l'Église tout entière s'est construite. À Jérusalem, c'est là. Et après, pendant 3 ans, il apprend aux disciples à faire de même. C'est pour ça qu'il les envoie 2 par 2, toujours. 2 par 2, jamais seul. 2 par 2. Que l'Église se construit dans le cœur de celui qui est proche de moi, si je l'habite. Sinon, il n'y a pas d'Évangile. Il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas de choristique. Il n'y a pas de paix. C'est une paix factice. Une paix qui s'écroulera. D'habiter dans le cœur de son prochain et de se véhiculer dans son cœur, de rentrer dans son pèlerinage. Pas vouloir que celui qui rentre dans le mien, dans son pèlerinage. Et ça y est, l'Église a commencé. C'est extraordinaire, ça je trouve, parce que Jésus nous rappelle toujours la vérité. On se fait toujours des illusions parce qu'on veut échapper à la réalité. Il nous ramène en celui qui est proche de nous. Et non, celui qui est proche de nous, c'est sûr, c'est lui qui commence. Et je suis très heureux. Très heureux de pouvoir me cheminer, marcher avec lui. La seule chose, c'est qu'il accepte que je marche dans son pèlerinage intérieur. C'est bon. Pas qu'il m'en empêche, c'est sûr. Alors on va demander à Saint-Luc aujourd'hui d'avoir ce sens extrêmement grand de ce passage justement de l'amour du prochain à la construction de l'Église. Ce passage de comprendre que c'est en aimant celui qui est proche de moi que j'irrigue toute ma Jérusalem. C'est l'amour du prochain. Et Saint Jean, vous voyez, de l'autre côté de l'évangile, Saint Jean, c'est l'amour du Père. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours mettre l'évangile de Saint Jean avec l'évangile de Saint Jean. Ça, c'est vraiment les deux évangiles qui s'emboîtent. Ils s'entendent très bien entre eux. On voit très bien que Saint Jean, quand il a écrit son évangile sur la motion de l'Esprit Saint, eh bien, il avait l'évangile de Saint Luc sous les yeux, et tout ce que Saint Luc dit, il ne le dit pas. Il complète. C'est très très beau de voir ça. Saint Luc, c'est l'amour divin et éternel du prochain. Et Saint Jean, c'est l'amour du Père. Le Verbe face au Père. Il fixe son regard vers le Père. Saint Luc, Jésus fixe son front vers Jérusalem en se plantant dans l'amour de celui, de celle, de Dieu, mais proche de lui, en lui. C'est sa demeure. C'est le devant. C'est nos deux mains. C'est nos deux ailes. Alors on court sur les montagnes. La foi et de science et de service. Alors, bon, ben, à l'occasion de la fête de Saint-Luc, on va demander cette grâce, justement. Ah, enfin, pouvoir aimer ceux qui sont proches de nous, et s'aimer vraiment beaucoup. Mais pour ça, il faut avoir peut-être cette agilité extraordinaire que donne l'horizon, cette subtilité extraordinaire du cœur que donne l'assimilation par la grâce à Marie. Conversion qui fait que nous sommes, que le Christ peut enfin, grâce à nous, sauver, habiter le cœur de l'autre dans la présence de l'Église. C'est sûr, c'est ce que disait le Padre Pio, par exemple. Le Pio disait, mais vous êtes idiot, quoi. Il y a des gens qui ne sont pas croyants. Mais oui, mais est-ce qu'ils vous aiment? Ils vous aiment humainement? Oui. Voilà, mais c'est génial. Alors, si vous aimez humainement, aimez-les. Si vous aimez, le seul fait qu'il vous aime, laissez-les rentrer dans votre cœur et mettez votre cœur dans le sien. Rien qu'à cause de ça, ils sont baptisés, ils sont en état de grâce uniquement à cause de ça. Parce que l'amour est un vase communicant. Et Dieu passe dès qu'il y a de l'amour en main. Je lui donne un. Alors, suscitez l'amour humain autour de vous, puisque vous êtes dans la grâce de Dieu et que l'Esprit Saint est en vous. À ce moment-là, tous vivent de l'Esprit Saint. C'est beau ça. C'est vrai, c'est très Saint-Luc. Ah, je vis de l'amour, vis de l'amour autant qu'on peut. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est pour ça que si vous voulez sauver ceux qui sont proches de vous, n'allez pas les bassiner en disant il faut que tu dises les oreilles de Saint-Brigitte, il faut que tu fasses un chemin de croix, il faut que tu te flagelles, il faut que tu t'écorches la peau jusqu'à ce que tu viennes t'empêcher. Non. Aimer son prochain. Aimer. Voilà, il faut être exigeant, avoir cette exigence de l'amour humain. L'amour intérieur, intime, de l'intimité mutuelle, du respect, de l'admiration.